Chers lecteurs, bonsoir. Bonsoir Tiffany Tavernier.
Bonsoir.
Bonsoir David.
Bonsoir.
Eh bien, on est heureux de vous accueillir pour la sortie de votre dernier roman, En vérité Alice, publié aux éditions de Sabine Vespisser. Alors, pour faire un petit peu le point rapidement sur qui vous êtes romancière, vous êtes également scénariste, vous êtes née en 1967, vous avez déjà écrit beaucoup de romans, vous êtes la fille de la scénariste Colo Tavernier et du réalisateur Bertrand Tavernier. Vos trois derniers romans ont été publiés sous une maison d'édition que nous chérissons particulièrement, qui est la maison d'édition Sabine Vespisser. En 2018, vous avez publié un roman qui s'intitulait « Roissy, portrait d'une indécélable ». Ensuite a suivi « L'ami ». Et nous voici aujourd'hui avec le livre « En vérité, Alice ». Alors, c'est un livre qui nous a beaucoup plu à tous les deux parce que vous racontez une histoire dans laquelle vous plongez directement le lecteur dès les premières pages dans l'histoire d'une femme qui est prise, au fait, sous l'emprise d'un homme. Elle a 28 ans, elle vit depuis 5 ans avec lui et elle a coupé quasi avec tout le monde parce qu'elle est persuadée d'avoir rencontré le grand amour, que personne ne la comprend, qu'elle vit une histoire magnifique, alors que pourtant, elle se fait frapper, rabrouer, il la domine aussi. Elle doit même, à un certain moment, aller chercher du travail parce que son mari ou son compagnon, je ne sais plus si, qui n'est jamais d'ailleurs nommé, ne travaille plus. Et donc, c'est elle qui doit véritablement prendre tout en main. Et donc, petit à petit, cet homme la tue, il la tue à petit feu. Et le drame, finalement, c'est qu'elle pense qu'elle va pouvoir le sauver et qu'elle va pouvoir l'extirper de sa fureur, de sa colère, mais à quel prix? Et donc, on suit cette histoire d'emprise qui est une sorte de monologue intérieur et on suit aussi l'histoire de Alice qui va devoir chercher du travail pour sauver ce couple d'une situation matérielle qui devient de plus en plus difficile. Et par le plus pur des hasards, elle va postuler au bureau de la cause des saints à Paris, un bureau qui existe véritablement. Et c'est là, c'est un bureau qui traite aujourd'hui les procès en canonisation des êtres susceptibles à devenir des saints. Alors elle va rentrer dans un monde qu'elle ne connaît pas. Ça va être une véritable surprise pour elle parce qu'elle va devoir remettre de l'ordre dans une administration assez complexe. Et en même temps, elle va lire les histoires de vie des saints, les miracles, la lumière qui a éclairé certains de ces saints. Et c'est finalement à travers un type de lumière qu'elle va arriver finalement à sa propre lumière à elle et donc être confrontée à sa propre vérité. Alors, si ce livre nous a plu beaucoup, c'est bon, bien entendu les histoires de relations avec des pervers narcissiques. Ce sont des histoires universelles qui ont toujours attiré beaucoup de monde. Mais je vais parler d'abord pour moi, c'est parce que c'est un livre qui aborde plusieurs sujets. Le thème de l'abandon, l'emprise, le déni, la compréhension du soi, de ses limites. Et puis surtout, c'est un livre qui livre un message assez positif parce qu'il parle de la possibilité de rédemption et d'une possibilité de résilience malgré tout. Et tout ça dans une écriture fluide. Alors, je propose qu'on commence avec nos questions directement.
Oui, voilà. Mais on se demande comment le personnage d'Alice, il est entré dans votre vie. Et quand je dis vie, c'est dans votre imaginaire aussi. Comment est-ce que tout ça démarre?
Alors, de façon assez prosaïque, parce que quand je cherche un sujet, les façons dont les sujets arrivent sont toujours très mystérieux et parfois drôles. Il se trouve que j'ai une cousine très catholique proche de la famille et qui me dit un jour qu'elle travaille au bureau des causes des saints. Ça m'interpelle, je ne sais pas ce que c'est que ce bureau. Elle m'explique que c'est un bureau où, comme vous l'avez dit, on suit les procès en canonisation contemporains. Et ce sont des procès énormes, inouïs, qui existent depuis le 11e siècle. Et donc, je commence à m'intéresser à la chose parce que je trouve que c'est une niche, un univers. J'aime bien les univers. Hein. J'ai déjà exploré pas mal d'univers dans mes romans. Et tout de suite, d'emblée, je me dis, j'avais envie de travailler sur la lumière. déjà, depuis l'écriture de l'ami. Et je me dis, ça, c'est une super porte vers la lumière. En plus, c'est une porte assez drôle, parce que assez kafkaïenne, assez administrative, d'entrer dans cette vérification, dans ces procès. Il vérifie quoi ? Il vérifie si la personne est, oui ou non, quelqu'un de sublime, de fantastiquement lumineux, fou de lumière, fou d'amour. Évidemment, presque concomitamment me vient et m'advient le personnage d'Alice, parce que qui j'ai envie de poser là-dedans, qui j'ai envie de balancer, on va dire, dans cet univers-là, bah de quelqu'un, si je dois parler de la lumière et du travail de la lumière, de quelqu'un de complètement paumé, d'une petite jeune fille de 29 ans qui s'est fait complètement aspirer dans une histoire d'emprise. Ça me vient parce que c'est aussi quelque chose qui m'interroge, l'emprise. La sainteté peut m'interroger, mais l'emprise aussi, la façon dont quelqu'un va s'adonner à l'emprise, va se jeter dans les bras d'un bourreau et va résister à toute injonction cherchant à l'en sortir. J'ai quelqu'un ici qui est dans l'aveuglement total, dans le noir, dans vraiment le gouffre. Quelqu'un qui vous raconte en souriant que tout va bien alors qu'elle a deux yeux au beurre noir. Et ça, c'est vertigineux. Comment je sors cette personne-là du gouffre ? Comment je la sors du néant ? Eh bien, mon jeu à moi, parce que la vie est drôle, parce que la lumière est drôle, parce que la lumière est intelligente, elle est folle aussi. Je plante Alice tout d'un coup, je fais en sorte qu'Alice, par un jeu de hasard, de domino, qui n'est pas du tout religieuse, athée, pas catholique, se retrouve projetée dans ce petit univers, ce petit bureau, parce qu'elle va être embauchée et ça va marcher. Et ça m'amuse. J'aime bien l'idée de déporter un personnage, de le sortir totalement de sa carapace, de ses habitudes, de ses balises de sécurité, qui sont ici pas des balises de sécurité, mais de gouffres, et de le planter tout d'un coup dans un univers, un petit décor qui est à côté.
Ouais, ouais.
On n'est pas chez les pygmées en Namibie. Mmh. Parce qu'on pourrait aussi imaginer un voyage, comme je l'ai fait pour mon premier roman, à Calcutta. Mmh. Non, là, c'est tout à côté que ça se passe. Et il y a un univers tout à côté qui se déploie, et qui est empreint de règles, de codes qu'elle ne connaît pas, et qui va complètement la paumer, la perdre. Et c'est à partir de cette perte qu'on se reconstruit.
Évidemment.
Alors, Alice, elle va postuler, c'est un peu par hasard, hein, par le plus pur de hasard, au bureau de la cause des saints, sans critiquer les religions. Moi, je pensais que ça allait mal se passer. Donc, sans critiquer les religions, est-ce qu'elle ne pourrait pas passer d'une emprise vers une autre ?
Bien sûr. D'ailleurs, à un moment donné, elle-même se prête à un jeu, à se penser elle-même sainte.
Oui.
Donc l'emprise, vous savez, c'est un jeu à double niveau. Il y a effectivement le bourreau et puis il y a cette capacité en soi aussi à se jeter dans l'emprise et à vouloir devenir plus gourou que le gourou, finalement. Et dans la religion, il y a tous les ingrédients, mais partout. Hein, moi, je suis quelqu'un qui pense que partout, il y a les ingrédients de domination et de soumission. Ça se situe dans une religion, dans une institution, dans un enseignement. Ça peut être une école de yoga, une école de... Voilà. Partout, vous pouvez vous retrouver, même parents-enfants, dans des jeux de domination qui peuvent soumettre quelqu'un à une emprise la plus féroce. C'est vrai que dans ce milieu, elle aurait pu. Bah, là, il se trouve que non. J'aime bien faire en sorte que les gens ne se... On n'est pas dans l'attendu avec moi.
Non.
Voilà. J'aime bien jouer aussi avec ça.
Oui, parce que la façon dont vous avez traité l'histoire est assez originale, parce que vous partez d'une histoire, somme toute, pas banale, que vous introduisez, mais qui finalement va faire amener le protagoniste vers quelque chose, comme vous dites, qui est peut-être à côté de sa rue ou pas loin de chez elle, mais dans un autre monde, dans un autre univers, et qui va la sauver d'une certaine façon.
C'est un monde inouï, juste inouï. C'est un monde peuplé d'êtres qui sont morts, hein, parce qu'on canonise des gens qui sont déjà morts, mais qui ont fait des choses sublimes par amour. Or, comme Alice est persuadée de vivre un amour immense, elle va se frotter à de l'amour brut de décoffrage, là, dans ses dossiers. Et j'aimais bien aussi l'idée que cette certitude en elle se frotte à quelque chose de qu'est-ce que c'est finalement le véritable amour. Il y avait deux choses qui m'intéressaient dans cette procédure. Comment je vérifie la lumière, on a ça chez les justes avec Israël. Mm-hmm. Comment je vérifie que quelqu'un s'est bien conduit pendant la guerre ? C'est pas rien, beaucoup, c'est toute une procédure. Mm-hmm. C'est beaucoup de gens autour d'une table pour savoir s'il n'y a pas eu un moment à dérapage. C'est la même chose avec les saints. dans l'église catholique, là, les mecs, pour le coup, ils sont vraiment très minutieux et ils cherchent à vraiment être sûrs, pour la plupart des cas, en tous les cas, que la personne est vraiment une sainte et a vraiment agi dans la lumière. Le fait qu'Alice se retrouve au milieu de ces dossiers, c'est un hasard et c'est pas un hasard. Elle va soudain devoir vérifier à l'aune de ces dossiers sa propre lumière.
C'est vrai que vous avez déjà un petit peu répondu à ma prochaine question, parce que, comme vous dites, Alice a le syndrome du sauveur. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas pour vous une façon de faire, et je suppose que oui, enfin, je ne vais pas avancer, un lien insidieux avec les saints, et aussi, elle, en étant dans ce syndrome du sauveur, et se retrouvant face à des sauveurs, elle reste un petit peu dans le même type de schéma.
Oui. Parce qu'il y a quelque chose, elle a soif de vaste. Mmh. Alice, elle est comme beaucoup d'entre nous, elle a soif d'immensité. Mmh. Elle a soif d'absolu, du grand amour. Mmh. Voilà. Et j'aimais bien, moi, en tant qu'auteur, de me coltiner, parce que je suis allée vérifier, je suis allée faire une enquête dans ce petit bureau. Et à Paris, il y a 40 dossiers en cours.
Ah,
et oui, ce sont des gens qui ont tous existé, dont l'abbé Pierre, par exemple, mm-hmm. Fait partie de ces 40 dossiers. Mais vous avez plein de figures, des mm-hmm. femmes incroyables, qui pulsent. Et je voulais, effectivement, j'aimais l'idée qu'elle se retrouve finalement dans quelque part dans ce même bain. Elle a quelque part, elle, à un moment donné, elle se prend pour une sainte. Mmh. Elle aimerait pouvoir le sauver. Elle aimerait pouvoir être capable de le sauver en agissant sur lui comme une sainte le pourrait le faire. Bon, ce qui est une des choses pour lesquelles elle ne serait pas sainte, parce qu'un saint ne se prend jamais pour un saint. Ouais. Ça fait partie des choses,
et
justement.
L'égo est de côté.
Ça fait partie des petites cases qu'on coche ou qu'on ne coche pas. Quelqu'un qui se déclare et se proclame saint, c'est fini. Le dossier se referme illico. Et si vous voulez. Oui, j'aimais bien l'amour. En fait, c'est aussi un grand roman d'amour. C'est le oui de l'amour, mais qu'est-ce que c'est que ce oui ? À qui il se donne ? Et pourquoi ? Et pour quelle raison ? Et là, y a un grand oui au départ qui se croit être un oui énorme, magnifique, généreux, fabuleux, sublime, mais qui est c'est de la pourriture, son oui. Mm-hmm. C'est de l'orgueil, c'est de l'aveuglement. Et elle va se confronter à du grand oui. Qu'est-ce que ça donne, le grand oui, dans ces villes-là ? Et là, ça pulse !
C'est sûr.
Et là, c'est un truc de fou. Malgré elle, elle va se retrouver quand même... Voilà, elle est obligée de les lire, ces villes-là. Elle va se retrouver même à rencontrer ses disciples, à voir aussi les filles de ce petit bureau, qui sont des filles en jupe-culotte, chemisier bleu marine, tout ce qu'on déteste, tout ce pour lequel on pourra avoir tous les préjugés. Mais alors là, vous pouvez faire la totale. Mais derrière ça, c'est toujours derrière. Mmh. C'est aussi un livre sur les apparences. Derrière le sourire de son homme, qu'est-ce qu'il y a ? Derrière le bleu marine des jupes en laine de ses filles, qu'est-ce qu'il y a ? Et derrière la folie des vies de ces gens qui étaient comme vous et moi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on trouve ? Voilà. Mmh. C'est un peu ça. C'est...
Oui,
et
oui.
Derrière le pont aussi. Mmh. Et derrière ce goéland. Enfin, il y a beaucoup de choses.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Alors, bon, vous avez choisi de raconter l'emprise du point de vue de la victime. Comment cela a influencé la narration ? C'est vrai que...
Elle ne se pense pas comme victime. Ça, c'est terrible. C'est presque le pire de l'emprise. On est au maximum, puisqu'elle ne se pense pas encore comme victime.
D'accord.
Se penser comme victime, c'est déjà un énorme pas. C'est une prise de conscience énorme. C'est déjà le début d'une certaine forme de guérison. La grande problématique, c'est que vous faites face ici à quelqu'un qui vous dit tout va bien et qui est en train de mourir. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, qui est au bord du gouffre et qui est dans une pente vertigineuse. Et là, c'est pour ça, c'est ça mon point de départ. C'est quelqu'un qui avance un récit ubuesque, incroyable, terrible, mortifère et qui résiste à toute forme d'ingérence dans son récit.
Tout à fait.
Vous faites comment pour sauver quelqu'un comme ça ? Mm-hmm. Vous lui dites, vous dites à Alice, mais tu es sous emprise, regarde, sa mère a essayé, sa sœur a essayé, ses amis ont essayé. Non, et les psys, parce que j'ai fait aussi une énorme enquête, pas seulement du côté des saints, et de cette procédure incroyable. Mais j'ai fait aussi une autre enquête sur l'emprise. Et l'emprise répond à une procédure. C'est-à-dire que j'ai une sorte de miroir dans ce roman. Il y a un petit bureau qui vérifie, entre guillemets, je voudrais dire, la procédure de la lumière, mais qui vérifie qu'est-ce que c'est que la vraie lumière chez quelqu'un. Et j'ai appris plein de choses, moi-même. J'ai découvert des choses, c'est pas mal, c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est. De la même façon, je vous dis, les justes, qu'est-ce que c'est qu'un juste ? Comment il agit ? De la même façon, qu'est-ce que c'est qu'une emprise et quelle est sa procédure ? Les mots utilisés, la façon dont le bourreau va s'approcher de sa victime, va l'isoler. Et ça répond à des codes très précis. Un psy pourrait vous le dire. Et très rapidement, lorsque quelqu'un reçoit, un psy reçoit une victime qui ne se prétend pas l'être et qui ne pense pas l'être, il va justement essayer de l'amener, cette personne, à décoder toutes ces règles, cette procédure qui est en train de l'annihiler, de la faire disparaître. Et c'est ça, ça m'intéressait. Donc je voulais partir du roman depuis ça, depuis cette situation-là.
D'ailleurs, vous le dites très bien dans le roman, qu'au départ, elle se pose la question pourquoi il l'a choisie, elle, parmi ses copines, en lui disant chaque fois qu'elle était la plus belle, la plus intelligente, et elle se dit elle-même... Mais... j'ai pas tellement plus que les autres. Ou... Donc, le mécanisme est en place. Vous parlez de ça.
Oui, elle a frétillé quelque part. Ouais. Elle est choisie. Et un des mécanismes de l'emprise, qu'il s'agisse d'une secte ou d'un mécanisme de couple ou même parental, c'est d'aller voir la personne et dire... Une des premières choses, c'est de le complimenter. C'est de servir son narcissisme, de vraiment de lui dire tu es quelqu'un de totalement spécial, d'énorme, d'inouï, d'unique, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent que toi, et toi seul es capable de me comprendre, de me sauver. Donc la personne en face se sent tout d'un coup investie d'une mission, voyez, et se sent investie d'une responsabilité, et là c'est mort. À partir de là, vous êtes juste... Parce que souvent, c'est les vrai. Gens qui sont sous emprise sont des gens très gentils, au départ, des gens très sociables, des gens qui sont très intelligents. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ce sont des gens gentils. Donc, c'est quelque chose qui joue et qui se sert de la gentillesse dans le mauvais sens du terme. C'est pour ça que les armes, quelque part, de la procédure, de la lumière, peuvent aider quelqu'un qui est sous emprise à comprendre qu'il s'est fait complètement avoir.
Mais... pourquoi, dans le fond, avoir choisi de faire de l'emprise une forme romanesque à part entière ? Et, double question, comment celle-ci se traduit dans votre propre écriture ?
L'emprise, c'est un récit. C'est très romanesque, c'est effroyablement romanesque, l'emprise. Puisque c'est quelqu'un qui s'invente une histoire. Mais qui s'invente, elle se lève le matin, elle s'invente une histoire, elle se prend... une insulte ou un coup de poing ou une raclée ou enfin tout ce que vous pouvez imaginer, elle va construire un récit systématiquement, elle va aborder la chose pour essayer de déconstruire la violence et de raconter quelque chose d'autre. C'est un récit en permanence qui se tisse. Et donc il y a quelque chose de très romanesque dans l'emprise. Et alors j'y vais aller beaucoup plus loin. Je pense en plus, mais là parce que je commence le roman par une emprise singulière, mais le roman va s'élargir au fil des pages de plus en plus. Et je pense qu'il y a, nous sommes un peu sous une emprise aussi, nous tous, d'un récit qu'on nous raconte à la radio, à la télé, aux informations. On essaye absolument de nous raconter quelque chose de l'ordre du réel, de nous imposer un récit. Et ça marche, parce que la plupart des gens adhèrent à ce récit, au point d'être hyper mal, hyper angoissé, et d'acheter plein de sacs, et d'acheter comme il le faut dans un... Je vais y aller très vite, parce qu'il y a quelque chose d'une injonction, là, à vouloir absolument adhérer à une proposition... de récits sur qu'est-ce que c'est que le monde aujourd'hui, qui est pour moi aberrante. Totalement aberrante. On est dans un délire. Ça va très très loin. Donc ça m'amuse. Il y a quelque chose aussi, l'emprise, c'est quelque chose qui me questionne. Quand je regarde les informations à la télé, moi j'estime que regarder les infos à la télé, c'est être sous emprise. Qu'on est dans un récit délirant. Délirant. Et donc de rester devant la télé et de vouloir le lendemain absolument être devant le poste de nouveau à la même heure, on est... Alors là, la personne est au maximum de l'emprise. Mmh. Quand elle me dit, il faut absolument que je regarde les infos. De quoi parle-t-on ?
On est nombreux à être sous emprise.
Alors. Oui. C'est très bien pour le néolibéralisme, ouais, l'emprise. C'est une petite merveille, c'est une pépite. Même 1984 n'avait pas pensé à ça.
C'est vrai.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon plus détaillée comment la thématique de la lumière est aussi un élément central dans cette œuvre ? Et en quoi elle devient, par quelle manière elle devient un élément clé de l'histoire ?
Comme je vous le disais, je voulais travailler sur la lumière après avoir travaillé sur les ténèbres quand même de façon assez violente dans L'Ami, le précédent roman. La lumière, c'est un... Alors, la lumière, c'est vraiment une thématique extrêmement compliquée à traiter en écriture. Pourquoi ? Parce que autant les ténèbres, il y a une facilité quelque part. Ça vous, une catastrophe vous tombe dessus, un meurtre, un truc extrêmement violent. Il y a une sorte de, comme dans L'Ami, hein, une arrestation. C'est un coup de poing. Et puis ensuite, vous suivez le choc post-traumatique, on va dire, reçu suite à la ténèbre. Ça peut être une guerre, ça peut être ce que vous voulez. Dans la lumière, non. La lumière, vous commencez avec quelqu'un qui va très mal, si vous voulez travailler la lumière. Mais comment la lumière travaille quelqu'un ? Comment elle approche quelqu'un ? Comment elle guérit quelqu'un ? Comment elle propose une solution à quelqu'un ? Eh bien ça, c'est de l'impressionnisme, parce qu'elle n'offre jamais une solution, elle ne s'impose pas. Elle arrive par des milliers de voix, très différentes, elle est drôle, l'humour existe beaucoup dans la lumière, elle arrive par des rencontres inattendues, inopinées, des situations étranges, elle arrive aussi par la porte du magique.
Oui.
Par la porte du magique, donc on est vraiment, on quitte l'Occident, on ouvre quelque chose, une sorte d'espace à l'intérieur de soi, une connexion, et j'aime beaucoup travailler ça. Et là, et de façon romanesque, ça donne une très très grande
ampleur,
un très grand ampleur, si vous voulez. Et puis c'est bien de parler de la lumière aujourd'hui.
Ouais. Oui, ça fait du bien. Est-ce que vous pourriez nous éclairer davantage sur la perspective selon laquelle, selon vos dires, je reprends une phrase, le plus grand ennemi de l'amour, c'est l'amour. Et comment cette idée complexifie votre exploration de l'amour dans votre roman ?
Bah, là, j'ai un peu résumé les choses. Le plus grand ennemi, pour, c'est une phrase que lui, qui est dans le roman, effectivement. Et c'est vrai, le plus grand ennemi de l'amour, pour Alice, c'est l'amour qu'elle pense vivre. Et là, c'est là où ça devient très, très dangereux, j'allais dire en anglais « tricky ». C'est que c'est par amour qu'Alice sombre.
Ouais.
Et donc, il faut absolument, lorsque vous aimez, il faut travailler, c'est-à-dire il faut travailler à la clarté, à la, ce qu'on appelle la clairvoyance de cet amour. Sinon, ou quand vous aidez quelqu'un, c'est pareil, j'aide, mais il faut bien poser... les raisons pour lesquelles vous allez tendre la main à quelqu'un et poser vos limites. Ou sinon, vous allez vous retrouver à aider quelqu'un, le jeter ensuite par la fenêtre, tellement vous en avez ras-le-bol. Et vous voyez, l'amour est quelque chose de, qui est très radical, au fait. C'est énorme, l'amour. Mais ça suppose beaucoup plus de non que de oui. On voudrait être des saints tout de suite, on ne l'est pas. Et donc, aller vers l'amour... Vouloir de l'amour, c'est un chemin âpre, c'est un chemin difficile, magnifique, sublime, mais qui comporte des règles, bizarrement. Et c'est peut-être pas qu'elle elle est un peu au pays de oui, au pays de l'amour, Alice. Et là, elle, quelque part, elle s'incarne. Elle va apprendre. Elle va prendre à bras le corps la matière amour. Et c'est une matière sublime, mais c'est pas oui, au pays de l'amour, non. C'est un voyage difficile, initiatique.
Alors, comment vous êtes venue l'idée, et ce sera notre dernière question, de conclure votre roman de façon dystopique ? Pourquoi le sommeil collectif a-t-il été choisi ? Et sans chercher une véritable signification, qu'apporte-t-il à l'ensemble du récit ?
Ah, mais il a une très grande signification.
Nous aussi, on avait une théorie.
Mais je viens de vous la donner, l'emprise généralisée. Il y a un moment donné, on est tous des endormis.
C'est ça.
Elle est une endormie Alice face à l'homme qu'elle croit aimer. Elle est une endormie, elle est en train de mourir. Notre monde entier est en train de mourir, d'une certaine façon. D'une certaine façon, hein, attention. L'écologie, enfin, on sait quand même la planète. Et nous sommes des grands endormis. Nous continuons d'acheter des sacs et nous continuons d'acheter 3 machines à laver.
Donc les enfants endormis, ça veut dire que nous sommes tous sous emprise.
Non, les enfants endormis, c'est le renoncement.
D'accord.
C'est par les enfants que il y a quelque chose de l'ordre de... nous, on annonce toujours les catastrophes, le monde va s'effondrer, la Terre va exploser. Ça, c'est, y a un côté sympa, il y a un côté Sarah Bernhardt. Il y a encore un côté Batman, on va exploser, ça va être l'enfer. Il y a un côté drama, Queen, sympa, même pour les jeunes, ils aiment bien raconter la fin du monde. Ça va pas se passer comme ça. Les gens... Il y a quelque part déjà, moi j'aimais bien l'idée d'une certaine fin du monde qui arrive par le biais des enfants qui renoncent.
Et, si
et
les
c'est beaucoup
enfants,
plus calme.
Ah, oui.
Et si les enfants renoncent...
Bon, ouais. Il y a quelque chose de l'ordre du calme.
Il y a quelque chose de très calme, et je fais juste une petite aparté, le syndrome des enfants endormis existe.
Ah.
Attention, c'est quelque chose que je tire moi au maximum, mais il y a des enfants qui s'endorment en Suède depuis des années, des enfants qui ont sont vus refuser leur asile et ils dorment depuis 3, 4, 5 ans et on parle de centaines de cas. Il y a des psychiatres et des médecins du monde entier qui sont à leur chevet. On n'est pas dans un coma, ils ne savent pas ce que c'est. Ils appellent ça le syndrome de résignation. Mais ça, quand même, ça pose question sur notre monde. Et ils disent, ces enfants sont tellement angoissés qu'ils ont décidé de s'endormir.
Ouais,
vous imaginez la force du truc ? Imaginez que le monde entier, que tous nos enfants s'endorment. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas l'air con. Et ça, j'aimais bien. Donc, il y a vraiment... Il y a Alice endormie, et puis il y a la révélation là-dedans.
Bien sûr.
Parce que mon sentiment, et qui est un sentiment que c'est presque... Voilà, c'est que nous sommes immenses. Mmh. Et que Alice, elle est peut-être au départ complètement paumée, aveugle, etc. Mais au fur et à mesure, il y a quelque chose en elle qui va se déployer, qui est d'une vastitude sublime. Et de la même façon que dans chacune de ces vies de saints, mais en fait, nous sommes tous des saints potentiels. Nous sommes tous des êtres immenses potentiels. On nous raconte que non, mais ce n'est pas vrai. Et donc moi, je prends le contre-pied, alors là, à 270%, et je fais de mon Alice quelqu'un d'assez incroyable. Voilà, c'est ma réponse.
Alors, j'ai quand même une dernière question pour conclure. Voilà, vous êtes en pleine promotion de votre ouvrage, mais on est très curieux de savoir... Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ? Est-ce qu'il y a des idées qui sont déjà là ou...
Là, je quitte la sphère du combat des ténèbres et de la lumière. Il y a eu 3 livres, hein. Roissy, ouais. L'ami et En vérité Alice, qui ne sont pas des livres qui se suivent ou qui ont des histoires qui ont à voir, mais ils ont des thématiques qui se croisent et qui, effectivement, c'est la thématique des ténèbres et de la lumière, de ce combat. Bon, je quitte ça, je quitte... mon prochain roman, je ne l'ai pas écrit, je n'ai pas encore fait les mais je l'ai entièrement dans la tête, on verra si c'est celui-là que j'écrivais, mais c'est sur 1937 et les congés payés. Et donc là, je suis sur une plage et on est sur quelque chose de complètement différent. Et voilà, et je pars en vacances avec quelqu'un que j'aime déjà beaucoup.
On vous souhaite beaucoup de chance pour la suite et on se fera un plaisir de vous retrouver lors de la sortie de votre prochain roman. Merci beaucoup.
Merci pour ces très très belles
questions. C'était passionnant. À bientôt.
Merci. Au revoir.